Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour un épisode de Hashtags. Et comme d'habitude, pour enfin, on a envie de dire, je suis avec Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va?
Salut Thomas, je vais bien et toi?
Écoute, ça va. On a pris des grandes vacances d'été, donc on a fait une petite pause là au cours des dernières semaines. Donc ça faisait longtemps que vous nous aviez pas entendu tous les deux. Mais voilà, ça y est, on est tous les deux revenus à un rythme de vie à peu près normal. Stéphane est de retour à New York. Moi, j'ai pas tellement bougé et je suis prêt, toujours au poste. Et donc on enregistre un épisode parce que bah, mine de rien, il se passe quand même pas mal de choses sur le plan des réseaux sociaux en ce moment. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane.
Ouais, mais je pense aussi c'est parce que il se passe pas grand-chose, donc du coup il se passe beaucoup de choses dans le secteur des technologies. On en
Ouais,
parle beaucoup
il se passe
ici.
deux trois trucs quand même en dehors de la tech, mais ouais, c'est vrai que y a clairement beaucoup de choses à dire. Et puis bah écoute, comme on n'a pas non plus des masses de temps, je te propose qu'on s'y jette.
Allez.
Le premier truc dont on a envie de vous parler, c'est bah, Facebook et encore un problème avec comment on peut dire ça? Des problèmes de Facebook et de manipulation d'informations, on va dire. Je sais pas si tu as suivi cette info, mais en gros, ça remonte à il y a à peu près une semaine. En fait, il y a une ancienne employée de Facebook qui a sorti un mémo, en fait, dans lequel elle explique que les efforts de Facebook pour empêcher la manipulation de la démocratie et la manipulation de l'information sont pas suffisants. Ils sont complètement, enfin c'est même pas qu'ils sont pas suffisants. En gros, c'est complètement au-dessous de tout. Ils se focalisent sur des choses qui sont pas forcément aussi importantes ou pas forcément aussi impactantes, on va dire, que bah ouais, les fausses nouvelles et la manipulation de la démocratie. En particulier, elle pointe un certain nombre de pays. Je crois qu'elle pointe en particulier l'Azerbaïdjan. Je suis en train de retrouver mes notes.
Il y a l'Inde aussi,
Ouais, c'est ça.
ouais,
Et
le Brésil.
comment tu dis?
Le Brésil
Le
aussi.
Brésil, ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, elle dit que bah à chaque fois, les réponses de Facebook ont été trop lentes et complètement inadéquates. En fait, c'est initialement c'est un article qui est paru sur BuzzFeed News, qui est mine de rien. Enfin, quand on entend BuzzFeed News, on pense à BuzzFeed, mais en fait, BuzzFeed News c'est vraiment un organe de presse séparé où c'est pas des gifs et des photos de chiots qui sortent de la piscine. BuzzFeed News c'est vraiment un vrai journal qui de temps en temps sort des scoops ou sort des articles particulièrement de qualité. Et c'est le cas de cet article en particulier. Je sais pas si tu l'as lu un peu, Stéphane.
Ouais, je l'ai lu, ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que l'article dit bien en fait que Facebook projette une image un peu de montrant que la situation pour eux est sous contrôle et qu'ils font énormément d'efforts. Zuckerberg, à chaque fois qu'il est devant le Sénat, il répète qu'il a embauché plusieurs dizaines de milliers de modérateurs qui font leur travail. Pour filtrer tout ce qui est manipulation et contenu illégaux sur la plateforme. Mais là, donc cet ancien employé qui était data scientist à Facebook montre bien que finalement, en fait, le focus de Facebook n'est pas forcément sur arrêter ces manipulations, mais plutôt sur arrêter les robots. Et on se rend compte que finalement, les robots, donc on parle de robots qui likent du contenu et qui font monter ces contenus dans les moteurs de recommandation. Finalement, c'est juste une partie toute petite de l'iceberg et qu'il faudrait plutôt créer des outils qui permettent d'empêcher les gens de manipuler plutôt que d'essayer de contrôler l'étendue de leur manipulation. Et donc en fait, dans tous les exemples que cet employé décrit, en fait, on se rend bien compte que c'est là le problème pour elle, et que la réponse de Facebook, elle est pas suffisante, et d'ailleurs elle mentionne que c'est probablement la raison pour laquelle elle s'est faite virer de Facebook. C'est qu'elle était pas du tout d'accord avec les décisions du management sur quelle était l'approche à avoir pour prévenir la manipulation qui a lieu sur la plateforme. Et donc c'est pour ça qu'elle a écrit ce mémo et qu'elle donne, c'est un moment assez détaillé finalement, parce qu'elle donne pas mal d'informations sur les manipulations qui ont eu lieu, et donc Facebook n'a pas vraiment répondu ou répondu trop tard, et on sent bien compte que Zuckerberg est toujours un peu plus sur l'excuse plus tard plutôt que sur agir préemptivement, et clairement on se rend compte que finalement en fait peut-être que c'est pas juste une décision de Zuckerberg d'agir comme ceci, mais c'est peut-être qu'ils ont juste pas les moyens, enfin ils ont pas investi en fait dans des moyens de prévenir plutôt que de répondre par l'excuse. Ce qu'a fait Twitter par exemple.
Ouais, sachant que Twitter c'est, enfin j'allais dire c'est pas la même ampleur que Facebook, c'est pas forcément vrai, mais quand tu dis.
On sait que.
Vas-y.
On sait qu'il y a plein d'exemples où c'est Twitter qui a communiqué à Facebook, tu vois, à des comptes qui n'allaient pas, enfin qui distribuaient de la fausse information. C'est Twitter aussi qui contactait Facebook à propos de sujets liés à des élections. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Twitter est plus dans est-ce qu'on peut arrêter les gens qui manipulent plutôt que de juste stopper les likes?
Ouais, c'est possible. Et c'est clair que, d'ailleurs, elle le dit hein, dans l'article. D'ailleurs, faut qu'on la nomme. Elle s'appelle Zheng et son prénom c'est, je sais plus. Mais en gros, voilà, j'ai juste son nom. Mais elle dit clairement, en gros, Facebook projette une image de force et de compétence, alors qu'en réalité, en fait, en gros, ils sont clairement à l'arrache sur le combat contre la désinformation et la manipulation de la démocratie, quoi. Et donc ça c'est ouais. pas enfin c'est pas ça vient de quelqu'un qui a fait partie de cette équipe et qui s'est battu pour essayer de faire en sorte que cette équipe soit plus efficace et plus organisée et plus en gros et un vrai impact. Donc je pense que c'est pas forcément des mots à prendre à la légère et c'est vrai que la partie communication et PR et je sais pas si tu te rappelles il y a quelques années en particulier au moment des élections brésiliennes, Facebook avait montré leur centre de commande et de surveillance, donc ils avaient 12 employés dans une salle avec des écrans et bon probablement des outils, probablement des process, mais bon globalement c'est vrai que ça paraissait clairement un effort de communication et en pratique c'est difficile de savoir exactement quel était leur impact à l'époque. Là je pense que ce mémo donne une idée du fait que c'est pas suffisant en fait. Alors je sais pas si elle était dans cette équipe là en particulier, mais clairement, elle, pour avoir côtoyé les équipes qui s'occupent de ça de très près, elle dit que c'est clairement pas suffisant, quoi.
Ouais. Elle s'appelle Sophie.
Sophie. Ok. Sophie Zheng. Donc du coup, c'est une transition parfaite pour parler de la réaction. D'ailleurs, qui est plus ou moins entraînée par ce mémo, hein, d'ailleurs. Mais la réaction de plusieurs célébrités, en particulier Kim Kardashian, de friser leur Instagram, leur compte Instagram. Donc je sais pas si t'as suivi ça, Stéphane.
Oui, un peu de loin, mais bon, friser c'est un grand mot, je trouve, parce que c'est juste ne pas poster pendant 24 heures.
Ouais, voilà, c'est un peu l'enjeu. Donc qu'est-ce qui s'est passé en gros? Ouais, c'est ça, c'est suite au en gros, le fait que Facebook ait du mal à adresser le contenu haineux et de manipulation d'élection. T'as beaucoup de célébrités, donc en particulier Kim Kardashian, Katy Perry et Leonardo DiCaprio, qui ont décidé de bloquer leur compte Instagram pendant 24 heures et de réactiver le hashtag Stop Hate for Profit qui était déjà en vogue, qui avait été en particulier utilisé par un certain nombre de sociétés pour un peu les mêmes raisons en fait, qui disaient qu'ils allaient suspendre leurs dépenses d'achat de publicité sur Facebook pour un peu protester sur le fait que Facebook n'était pas suffisamment, ne réagissait pas suffisamment en fait sur les contenus de désinformation. Voilà, misinformation, c'est désinformation. Donc faut savoir que donc Kim Kardashian c'est 188 millions de followers. Donc c'est quand même pas mal. Et puis donc elle a été suivie par un certain nombre d'autres célébrités. Donc je parlais de DiCaprio, Katy Perry, il y a aussi Ashton Kutcher, Mark Ruffalo qui est Hulk dans les Marvel, Kerry Washington qui est la star de Scandal, Rosario Dawson, Jamie Foxx, Sacha Baron Cohen. Donc pas mal de stars. T'as l'impression que c'est un peu, tu sais, les gens qui étaient là à son anniversaire. Je sais pas si elle les connaît tous personnellement de près, mais t'as l'impression que c'est quand même un nombre. Enfin ouais, c'est des gens qui ont quand même pas mal de choses en commun a priori. Ouais. Mais voilà, donc je sais pas exactement. Enfin c'est vrai que ça suit des sociétés qui avaient fait la même approche. Je crois que c'était Pepsi et Unilever, je sais plus exactement d'ailleurs, c'est un peu dommage, mais j'ai oublié les sociétés qui a un gros mois suite à ce qui s'était passé à Minneapolis et à Kenosha avaient décidé d'arrêter pendant un mois je crois leurs dépenses sur Facebook. Je sais pas ce que t'en avais pensé, on n'avait pas trop l'occasion d'en parler.
Bah, tu sais, moi, je pense que, comment dire, c'est pas vraiment utile ce genre de, je vois pas l'intérêt, en fait, d'arrêter de poster pendant 24 heures. Je pense qu'il devrait juste, tu vois, si c'est vraiment tu penses que tu as un rôle à jouer, c'est de, bah, si tu, d'utiliser notre plateforme, d'utiliser d'autres outils que d'utiliser Facebook, tu vois. Enfin, je sais bien que c'est compliqué,
ouais.
mais par exemple quand une entreprise dit on va arrêter les publicités, enfin là pour le côté de célébrité qui arrête de poster, bon c'est vrai que c'est plus compliqué de dire oui j'arrête d'utiliser Instagram, mais pour des sociétés qui font la publicité en ligne, dire bon bah j'arrête d'utiliser les publicités sur Instagram pendant un mois, mais bon je recommence en août, je trouve que c'est pas vraiment utile, tu vois. Enfin, je pense que c'est plus de la com qu'autre chose.
C'est pas utile dans quel sens? Tu penses que c'est pas utile parce que ça fera pas réagir Facebook en gros?
Oui, ça fera pas réagir Facebook. Tu vois, le stock de Facebook n'a pas vraiment bougé.
Ouais, a priori, il y avait une variation de 1,7%. Je sais même pas si c'est peu. Oh, ouais, bah, si ça peut être attribué. Si ça peut être attribué à ça, mais en gros, ouais, après pré-ouverture des marchés mercredi dernier, à l'époque où. Toutes ces conversations se produisaient. En gros, Facebook était en baisse de 1,7%. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi. Il faut savoir que c'est 70 milliards de dollars par an, les revenus de Facebook sur la pub. donc ouais, ça fait quand même beaucoup. Clairement, je pense que le Stop Hate for Profit, c'était assez majoritaire. En fait, c'était beaucoup de... Facebook en fait c'est très très comment dire, tout le monde utilise Facebook en fait pour faire de la pub sur internet, donc finalement même si c'est leur plus gros client, ça représente quand même une partie assez faible parce qu'il y a beaucoup de petits clients qui dépensent. Donc finalement, même si Facebook se retrouvait à perdre leurs plus gros clients, leurs 50 plus gros clients, ça représenterait pas une portion aussi importante qu'on pourrait penser de leurs dépenses. Bon, malgré tout, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que je suis en partie d'accord avec toi dans le sens où c'est pas ça qui va les faire changer du tout au tout. Je pense que c'est quand même une bonne chose de maintenir la pression sur Facebook parce que je pense qu'ils identifient ces problèmes là. Et ils agissent dessus sur le long terme. Je pense que si personne ne fait rien et si personne ne manifeste un certain intérêt sur ces questions-là, et en particulier quand ça vient des gens qui leur donnent des sous, bah, il se passera encore moins de choses, tu vois. Donc, je pense que clairement, là, il n'y a pas grand monde qui peut faire, qui peut régler le problème au-delà de Facebook, quoi. Si on attend qu'il y ait un effort en termes de régulation, on va attendre des années, et je dis pas que ça arrivera pas, mais ça va vraiment prendre des années et des années à se mettre en place. Et, mais en parallèle, si on met pas la pression sur Facebook, bah, Facebook ne verra pas forcément d'intérêt à prendre le problème à bras le corps et à essayer de régler les choses, quoi. Et je dis pas qu'ils vont.
Ouais, mais la pression, elle est pas. Enfin, pour moi, elle est pas à mettre du côté des célébrités ou des entreprises. C'est aussi au gouvernement de faire la part des choses. Tu vois, enfin, on parle aussi de TikTok ces dernières semaines. Le gouvernement des États-Unis met vraiment la pression sur TikTok pour changer sa structure, mais de façon importante, tu vois, puisque ils vont se séparer de leur maison mère. Mais à côté de ça, Facebook, tu vois, on demande juste au CEO ou CEO de Facebook de venir devant le Sénat tous les 6 mois, tu vois. Et à la limite, c'est tout, quoi.
Ouais, non, c'est vrai. Et puis aussi, l'effort, il est complètement décoordonné. Ouais, enfin, il n'y a pas de coordination entre ce que veulent les démocrates et ce que veulent les républicains à chaque fois. Enfin, on le voit bien au cours des auditions au Sénat, ça part dans tous les sens. Enfin, personne ne veut vraiment la même chose, quoi, entre les gens qui demandent à ce que Facebook investisse pour protéger des jobs ou aider des jobs, entre les gens qui estiment que Facebook est biaisé en termes de censure la parole des gens qui sont conservateurs. Enfin, ça part vraiment dans tous les sens, et du coup la manipulation de l'information, en plus c'est clairement pas le focus pour les raisons qu'on connaît de l'administration en place. Donc je suis d'accord avec toi, un jour le gouvernement sera enfin les gouvernements des États seront suffisamment organisés et suffisamment efficaces pour pouvoir taper là où ça fait mal et faire en sorte que Facebook s'y mette vraiment, mais ça arrivera pas avant des années, quoi. Donc c'est pour ça que je me dis que de voir des célébrités s'emparer un petit peu du sujet et le mettre sur la place publique, parce que tu vois, quand les célébrités en parlent, ça veut dire que les gens qui suivent les célébrités s'intéressent à la question aussi et se disent, ah, attends, il y a peut-être un problème du côté de chez Facebook, tu vois. Donc il y a une certaine part d'évangélisation du problème, mais bon, ouais, voilà. C'est une première étape, on va dire. Peut-être qu'il se passera plus de choses dans les mois à venir. D'ailleurs, on avait parlé il y a pas mal de temps de la publicité, de l'approche des différents réseaux sociaux sur la publicité politique, en particulier le fait que Twitter avait décidé d'interdire toute publicité politique et le fait que Facebook ne le faisait pas. Facebook a annoncé que ils allaient interdire la publicité politique. Alors attends, c'est quoi? C'est 2 jours avant l'élection, c'est ça, aux États-Unis?
Je crois que c'est la semaine d'avant.
Ok, la semaine d'avant. Ouais. Donc voilà. Donc c'est alors bon, je te laisse répondre, Stéphane. Qu'est-ce que t'en penses? 2 semaines avant, c'est
une semaine avant, quand la plupart, enfin, je dis la plupart, j'en sais rien en vrai, mais quand beaucoup votent, à l'avance en fait. Parce qu'aux États-Unis, on peut voter par courrier, donc il y a beaucoup de personnes qui vont voter sans aller se présenter au bureau de vote. Ouais, je pense que la manipulation, elle a lieu dès maintenant. Elle avait lieu déjà il y a 6 mois et puis il y a un an. Ouais. Et donc interdire ça une semaine avant,
c'est une blague.
C'est une blague, ouais. Enfin, ça sert à rien de un, et puis.
Ouais. Bah, je pense que c'est ça le truc qu'on retient, c'est que bah ouais, c'est ça, ça va pas changer grand chose et c'est limite presque se foutre de la gueule du monde, en fait. Pour le dire honnêtement, Facebook se moque un peu de nous, en fait, en disant regardez, on fait un effort.
Mais exactement. Et puis en fait, ça leur permettra quand il y aura le prochain meeting de Zuckerberg devant le Sénat de dire bah non, mais regardez, on a fait ça.
Ouais. Ouais, c'est presque histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose. Donc ouais, donc clairement bon le climat, honnêtement le climat politique, on n'est pas un podcast politique, mais le climat politique ici est quand même assez catastrophique. On va voir ce qui va se passer. À mon avis, c'est pas encore, on n'est pas encore complètement au bout de nos surprises. Et bon ouais, clairement je pense que Facebook fait pas grand chose pour contribuer. Il communique beaucoup d'ailleurs, je sais pas si c'est ton cas, mais je reçois quand même beaucoup de pubs, en particulier dans les podcasts que j'écoute, en particulier sur NPR. On sent qu'ils font beaucoup de pubs pour redorer leur blason et dire qu'ils font des efforts sur la publicité politique, et sur la publicité en particulier, etc., etc. Mmh. Je pense que là, c'est clairement un gros effort PR pour mettre en avant toutes les initiatives qu'ils ont prises, qu'elles marchent ou pas. Ouais, ça me fait c'est clairement je pense qu'en fait en gros l'élection de 2016 c'était le déni, et là le thème c'est le mensonge en fait autour de je suis un peu direct avec Facebook, mais je pense que sur ces questions-là ils sont clairement au-dessus de tout, et voilà, un jour ouais. Peut-être ils feront du bon boulot sur ces questions-là, mais clairement aujourd'hui c'est pas le cas.
Non, mais enfin, moi, j'ai plus de doute sur le fait que Zuckerberg privilégie, enfin, l'argent, enfin, sa fortune personnelle et celle des investisseurs de Facebook au-dessus de la stabilité des démocraties et de l'information. D'ailleurs, il y a, c'est en anglais, c'est dommage, mais Kara Swisher, qui est une journaliste à la base qui couvrait le secteur des technologies, un podcast sur au New York Times, et elle a interviewé cette semaine d'ailleurs, Nancy Pelosi, et c'est assez intéressant parce qu'elle parle un peu de Facebook dans ce podcast.
Nancy Pelosi, qui est le leader de la chambre de la, comment ça s'appelle, de la chambre des représentants ici aux États-Unis. Et qui est la députée, enfin la
du côté démocrate.
Du côté, enfin ouais, en gros ouais, mais c'est la chambre, elle mm-hmm. est démocratique, donc c'est la majority leader. Et
mais du coup dans ce podcast, tu te rends bien compte qu'elle en a conscience en fait de l'impact qu'a Facebook sur les élections, et qu'en fait c'est juste une priorité qui commence à être de plus en plus importante au sein du monde politique. Mais que clairement, ils se sont réveillés, ils se sont pas réveillés, enfin, c'est 2016, tu vois, qui a réveillé. Ouais. Et ils ont juste pas le vocabulaire, ils ont pas le vocabulaire pour comprendre, tu vois. Donc, je pense que ça prendra peut-être une autre génération de politiciens
ouais.
pour pouvoir aborder ces.
Mais entre temps, il y a eu Trump, il y a eu Duterte, il y a eu mm-hmm. Bolsonaro, il y a eu, enfin, c'est quand même dramatique, hein. Je sais pas si t'as lu Mindfuck. J'avais enregistré un épisode vite fait pour parler de ce livre, mais qui parle de Cambridge Analytica et de la façon avec laquelle, en gros, tu t'es retrouvé en 2015 avec Bannon et compagnie qui avaient créé ils appellent ça la société en silicone, en fait. En gros, ils ont recréé quasiment tout le corps électoral par l'intermédiaire de comptes Facebook, et c'est compliqué en fait de dire à quel point ils ont été efficaces, parce que tu peux pas tellement savoir. Enfin, le fait est que Trump a été élu, mais quelle est leur contribution à ça, c'est difficile à savoir. Mmh. Mais si tu veux comprendre un petit peu comment fonctionne, comment a fonctionné leur entreprise de manipulation de l'opinion. Le bouquin est assez fascinant, quoi. Il y a eu pas mal de choses sur l'affaire Cambridge Analytica, il y a eu des documentaires aussi, mais enfin c'est on sait comment ça fonctionne, quoi. Donc c'est pas compliqué de faire une enquête et de rechercher les détails. Enfin, il y a suffisamment de gens intelligents, il y a suffisamment d'universitaires qui travaillent sur le sujet pour savoir ce qu'il en est, quoi. Mais c'est vrai que malheureusement avec Trump au pouvoir, il a tout fait pour museler les gens qui avaient des choses intéressantes à dire sur le sujet, quoi.
Ouais, donc on verra.
Ouais. Et alors donc.
De toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est cool, c'est qu'il y a certains pays comme la France, tu vois, qui non seulement, limite. En fait, je pense que c'est aussi la question de limiter le budget publicité. Mm. Tu vois, en France, on a un budget pour chaque élection, et donc du coup, ça limite ces efforts de spammer les publicités, parce que aux États-Unis c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin, même à la télévision, le budget publicité et impressionnant.
Ouais, ouais, c'est des centaines de millions de dollars, quoi, de budget.
Ouais.
Donc du coup, alors j'avais une transition parfaite, mais là du coup tu me l'as un petit peu altéré, mais c'est pas grave. On continue à parler de désinformation et de Facebook en particulier, entre autres. On va parler des deepfakes. Et donc il y a eu un article de The Verge qui est paru la semaine dernière. Et en gros dans lequel un journaliste s'est amusé à créer des deepfakes. Et en particulier, donc il nous explique en gros ce qu'est un deepfake. Donc pour mémoire, un deepfake, l'idée c'est en gros vous prenez une vidéo d'une personne, que ce soit un homme politique ou une célébrité ou autre, et vous lui faites dire des choses que cette personne n'a pas dit. Et donc en gros il y a tout un groupe d'algorithmes d'intelligence artificielle, en gros pour le dire simplement, de machine learning, qui va permettre d'ajuster le mouvement des lèvres de la vidéo que vous avez avec le son que vous fournissez en entrée, et ça nous donne des résultats qui sont assez impressionnants. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait on va dire 4-5 ans que ce truc là est présent, mais en fait là ça a fait de tels progrès que les technologies sont quand même de plus en plus accessibles en fait, et donc du coup tu peux assez facilement j'ai envie de dire si tu connais un peu Python, mais même si tu connais pas Python, enfin il y a de plus en plus d'outils en fait qui te permettent de faire ça de façon super simple. Et donc du coup, même avec une connaissance limitée de la technique, vous pouvez en gros manipuler des vidéos et faire dire à des gens sur une vidéo des choses qu'ils ont jamais dites. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane?
Ce qui est intéressant, c'est que en fait, tu sais, il y a beaucoup d'applications iPhone qui permettent de faire, enfin d'Android aussi sûrement, qui permettent de mettre ton visage sur des vidéos ou sur des photos. Et en fait, on se rend bien compte que la technologie, elle a vraiment progressé énormément ces dernières années, tu vois.
Ouais.
Et donc ça, c'est dans la continuité, puisque enfin, quand tu te rends compte qu'un journaliste qui n'a pas forcément de connaissances plus avancées que ça dans les technologies est capable de suivre un tutoriel sur comment faire un deepfake et de manipuler ce que Donald Trump dit. Et d'ailleurs, c'est assez convaincant. Même si tu te rends compte que de par ce qu'il dit c'est complètement un deepfake, visuellement tu pourrais y croire.
Ouais.
Je trouve que c'est assez intéressant. Je sais pas si c'est négatif ou positif, parce que je pense que la manipulation des médias a toujours plus ou moins eu lieu, tu vois, dans l'histoire. C'est juste une nouvelle approche, tu vois, parce que avant, on avait juste les audios qui étaient un peu manipulés, et puis on pouvait dire, non, mais tu vois, c'est sorti du contexte, c'est pas moi qui parle. Et là, finalement, est-ce que ça va peut-être pas les aider en disant, non, c'est un deepfake, et puis le temps de prouver que c'est pas un deepfake, et finalement, c'est plus de l'actualité. Tu vois, je sais pas vraiment si à quelle mesure ce sera négatif, tu vois.
Ouais. Ouais.
Puis ça dépend aussi de qui utilise ce genre de choses.
Ouais, c'est marrant. Enfin, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas tellement d'accord. Moi, je pense que c'est clairement un outil qui va avoir un impact. Enfin, je vois pas comment ça peut ne pas avoir à certains moments des impacts super négatifs, quoi. Avec, enfin, pour moi, c'est un peu doper les capacités en gros, t'avais des fake news. À une certaine époque, et là maintenant t'as des fake news en vidéo, quoi. Enfin, tu passes de la version papier à la version écrite à la version vidéo, quoi.
Mais est-ce qu'en même temps ça va pas, tu vois, le côté les fake news, c'est ça apporte de l'information qui est fausse, mais ça aussi décrédibilise un peu l'information parce que les gens du coup ne croient plus du tout en l'actualité. Et je me demande si ça va pas avoir le même impact où les gens en fait qui vont voir du contenu de politiciens finalement ne vont pas se dire de toute façon c'est faux en fait, tu vois.
Ouais, en gros tu penses que les gens vont ça va pousser les gens à ne plus rien, potentiellement ne plus rien croire, et ou en tout cas vérifier.
Potentiellement, ou aussi se poser, se... exactement, peut-être aussi se vérifier, de... en fait, moi je pense que, bah, peut-être pas au début, hein, certainement pas d'ailleurs, mais je pense que sur le long terme, c'est quelque chose qu'on va devoir apprendre à vérifier, tu vois.
Ouais. Je pense que ta foi en l'humanité est sans limite, et je pense que les choses se passeront pas forcément aussi bien que ça. Mais enfin, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais c'est ouais, d'un coup, en gros, tu te rends compte que bah tu peux faire dire ce que tu veux à une personne sur une vidéo, donc à partir de là, tout ce que tu vois en vidéo, potentiellement, tu dois en douter et te dire que bah ça a peut-être été manipulé. Ouais, malheureusement, je suis pas sûr que c'est la façon dont les choses vont se passer. Mais
bon. Peut-être pas au début, mais je pense que sur le long terme, je pense que c'est possible. Parce que par exemple, c'est pareil avec les photos, c'est tellement facile de photoshopper des trucs.
Ouais.
Et finalement, aujourd'hui, c'est le premier médium pour manipuler les gens, c'est pas des photos photoshopées, tu
ouais,
vois.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais bon, le fait est que, en tout cas, retenez que, on mettra les liens d'ailleurs, hein, dans les notes de l'émission, comme ça vous pourrez aller voir. Ouais, c'est quoi, c'est Pintman Pally, Losty avec Donald Trump là. En gros, Donald Trump qui parle comme un Irlandais alcoolisé. C'est quand même assez saisissant quoi. Ça marche quand même vraiment bien. Donc voilà, donc là on vous a couvert quand même pas mal de sujets. L'idée c'était quand même de parler de Facebook et des problèmes de désinformation. On vous a parlé de 3 articles en même temps, on a fait un combo, on va enchaîner et puis essayer d'aller un peu plus vite sur les autres sujets. Et en particulier, on va parler rapidement de TikTok. alors TikTok, il se passe plein de trucs, donc j'ai fait un petit résumé des épisodes précédents, vous pouvez trouver ça dans le flux du podcast. Et c'est vrai qu'il s'est passé des trucs, mais en même temps, il s'est pas passé grand-chose, dans le sens où on pense que Oracle a gagné l'offre, enfin a remporté le contrat, mais c'est pas complètement sûr. Ça a plus ou moins été approuvé par la Maison Blanche, mais ça a pas complètement été officialisé. En parallèle, il semblerait qu'il y ait des choses qui étaient rajoutées à la dernière minute sur le contrat. En particulier, il est question d'un fonds de 5 milliards de dollars qui est, enfin ça c'est complètement délirant d'ailleurs, hein, mais un fonds de 5 milliards de dollars pour aider à l'éducation et en particulier à promouvoir la vraie histoire de l'Amérique. Donc voilà, donc t'as en gros
ça.
Facebook qui va, je sais pas, c'est complètement pas Facebook, plutôt TikTok qui va financer un organe de propagande américain.
Ouais, non mais je pense que de toute façon, enfin je pense que c'est rien n'est clair actuellement et il va falloir attendre un peu pour en savoir plus. D'ailleurs, la Chine a dit aujourd'hui ou hier qu'ils allaient refuser l'acquisition en fait en disant que c'est c'est comment dire du bilisme.
Ouais.
Donc je pense qu'on a juste à attendre en fait de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que Oracle n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. Walmart non plus. Les États-Unis non plus. La Chine on sait pas trop. Enfin, je pense qu'ils devraient tous se mettre autour d'une table et vraiment discuter parce que je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui ont lieu. Tu vois, je pense qu'Oracle a parlé à Walmart et a parlé à TikTok. TikTok a parlé à Trump. Oracle a parlé à Trump. La Chine parle juste à ByteDance. Enfin, tu sais, c'est...
Ouais. Mais c'est impressionnant hein, quand même, hein, le niveau de... Mmh. Alors nous, on voit que la partie émergée de l'iceberg, mais enfin, t'imagines le bordel qui se passe sous la surface. Enfin, c'est quand même incroyable de voir à quel point... comment dire... Je pense qu'en fait Trump dit Trump gouverne un petit peu comme un monarque en fait quoi. Enfin, il pense que sous prétexte qu'il a décidé de quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui lui a dit oui à ce qu'il a décidé, les choses se passent quoi. Et donc du coup, il annonce ça et enfin le coup de j'ai même pas parlé du fait que c'est comment ça s'appelle le Department of Commerce qui veut non, c'est pas le Department of Commerce. Mais je sais plus. En gros, il veut que Trump veut qu'une partie de la transaction, des frais de la transaction reviennent à l'État américain. Je sais pas.
C'est du jamais vu.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment du jamais vu. Puis on se retrouve. Enfin, t'as l'impression qu'on est dans une république bananière, quoi. Enfin, c'est c'est digne de, je sais pas comment est-ce qu'on dit chronisme en français, mais enfin c'est digne de la Russie de Poutine quoi. Enfin c'est quand même incroyable quoi. Donc je sais pas, enfin c'est ouais, c'est quand même assez hallucinant. Mais du coup donc je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter en particulier sur le deal ou sur TikTok.
Non, non, pas vraiment, puisque finalement, il y a pas vraiment. C'est difficile de commenter quand
Quand
la
tu sais
formation
pas
elle
ce
est
qui se
tellement
passe.
différente.
Ouais.
Ouais.
C'est ça. Donc on va faire une petite pause sur cette histoire de deal. Pour l'instant, hein, TikTok appartient toujours à ByteDance. Donc l'histoire en fait, en gros, c'est que TikTok Global, qui devrait être le nom de la nouvelle entité, devrait être séparé de TikTok. Et puis il y a aussi un débat sur qui possède TikTok Global. Donc a priori Oracle et a priori Walmart, qui revient dans la danse, posséderait jusqu'à, et plus un certain nombre d'investisseurs privés posséderaient jusqu'à 20% de la boîte. Mais il semblerait que en gros la Chine et ByteDance disent bah ouais, mais ça veut dire que nous les 80% c'est nous qui les possédons. Donc clairement il y a juste en termes de, comment dire, de répartition du qui bénéficie du deal, les choses sont encore en discussion. Donc voilà, donc on va attendre que les choses se décantent. Je pense que ça va encore durer pas mal de temps, quoique peut-être que ça va passer à l'arrière-plan et qu'on va oublier ce qui se passe et que finalement TikTok va rester à la propriété de ByteDance et qu'il va jamais rien se passer avec les autres sujets de l'actualité qui s'annoncent. Mais moi j'avais envie de parler un petit peu du TikTok Transparency Center. Est-ce que tu l'as lu l'article un peu, Stéphane?
Non, pas vraiment.
Ok, donc je vais en parler vite fait. Donc en fait, TikTok est un peu dans une situation compliquée, mais faut savoir que depuis en gros 1 an et demi, 2 ans, ils ont tout fait en fait pour éviter de se retrouver dans cette situation. TikTok, c'est un peu notre réseau social préféré avec Stéphane, hein. Mais faut savoir que c'est en fait la première fois qu'une société chinoise arrive à créer comment dire, un outil, un réseau social, un service qui est aussi populaire à travers le monde en fait. Et il faut savoir qu'ils ont fait ça, ils ont pas fait ça complètement tout seuls. Ils ont racheté une boîte qui s'appelait Musical.ly, qui était une boîte américaine basée en Californie du Sud, je crois. Mais entre-temps, bah voilà, ils en ont fait TikTok, qui est vraiment un phénomène global. Mais ils savent que leur talon d'Achille, bah, c'est un peu d'être chinois, aussi incroyable que ça paraisse. Et donc du coup, ils ont tout fait pour fournir une certaine transparence en fait en termes de leur process, de comment ça fonctionne, comment l'outil fonctionne. Ils ont été un peu pris la main dans le sac à plusieurs reprises sur des questions de propagande pro-chinoise et un peu de manipulation d'information. Mais a priori comment dire, d'une ampleur beaucoup moindre que ce qui a pu se passer sur Facebook au cours des dernières années. Et au passage, ils ont créé ce centre pour la transparence. C'est ça, le centre TikTok pour la transparence. Je crois que c'est ça. Il y a même un site français d'ailleurs que je mettrai dans les notes de l'émission. Et donc du coup, sur ce site-là, en fait, bah ils expliquent la mission. Donc c'est quand je dis un site, en fait, c'est marrant. C'est à la fois un site web et en même temps un site physique. Alors là, avec le Covid, en fait, le site physique a été fermé. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un site a priori en Californie et à Washington, mais peut-être dans d'autres villes à un moment donné, où les journalistes, les politiques peuvent se rendre et peuvent parler à la fois à des ingénieurs, à des représentants de TikTok, poser des questions, avoir des réponses, potentiellement même avoir accès à l'algorithme. Et c'est un truc que j'ai évoqué, je pense, dans l'épisode que j'ai enregistré tout seul la dernière fois. En fait, TikTok donne accès à, pas à tout le monde forcément, mais à un certain nombre de personnes qui en font la demande justifiée, en particulier des politiques, accès à l'algorithme pour comprendre un petit peu comment l'algorithme de recommandation de la For You Page, qui est un peu la secret sauce de TikTok, fonctionne. Et donc du coup, là, l'article de The Verge, c'est en fait Casey Newton, qui est un peu le spécialiste des questions liées aux réseaux sociaux à The Verge, qui s'est rendu en fait au Transparency Site pour visiter un peu les choses. Alors en fait, a priori, enfin, il s'est pas rendu parce que c'était Covid, mais en gros, il a assisté à une présentation avec d'autres journalistes. sur Zoom du Transparency Center. Et donc voilà, donc c'est un peu comment dire, c'est un peu l'équivalent de la représentation diplomatique de TikTok en fait aux États-Unis. Et je trouve ça assez intéressant. Kevin Mayer, donc qui est l'ancien président de TikTok, qui a démissionné ensuite aux conversations autour du rachat, disait en fait que l'idée c'est de ne pas attendre pour la régulation régulation et les lois et d'être un petit peu proactif sur ces questions-là. Et c'est un truc qu'on voit beaucoup hein, pour dans les startups de la Silicon Valley. L'idée c'est de ne pas attendre que les choses soient déterminées pour vous, mais de proposer dès le départ des solutions. Donc voilà. Donc je sais pas exactement ce que t'en penses, Stéphane.
Je pense que c'est comme tu dis en fait leur seul problème, leur seul gros problème, c'est d'être chinois et donc ils en ont vraiment conscience et ils essaient de montrer que c'est pas un problème en fait auprès des gouvernements et du grand public. Et puis ça pose aussi la question de pourquoi TikTok et pas par exemple du point de vue européen ou du point de vue indien qui ont des discussions sur bannir TikTok ou par exemple en Inde où ils l'ont déjà fait. Pourquoi bannir TikTok? Parce que ce serait une compagnie chinoise et pas bannir Facebook qui serait une compagnie américaine, tu vois. Et je savais pas du tout qu'ils avaient ouvert des sites donc des sites publics, tu vois.
Ouais.
Et c'est assez intéressant.
Ouais, ouais, et puis il parle aussi d'ouvrir comment ça s'appelle, Incident Command Center, donc un centre de commande d'incidents à Washington DC. Donc je pense que là l'idée c'est d'avoir d'avoir des gens qui soient prêts à monitorer des postes liés à par exemple des manifestations ou ce genre de choses. Donc voilà, donc il montre un peu en gros enfin TikTok est vraiment ça paraît assez comment dire contradictoire, mais TikTok se présente un petit peu comme le premier de la classe en fait sur ces questions-là et essaye de prouver que bah ils font mieux que Facebook, ce qui est un peu difficile à savoir en fait, parce que tu sais pas comment les choses fonctionnent de l'intérieur. Mais tu sens qu'ils font des efforts avant même qu'on leur demande quoi que ce soit pour mettre un peu en avant leurs efforts de transparence en fait.
Ouais.
Donc voilà, à voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Mais si vous voulez faire un tour sur la page TikTok qui présente le fonctionnement de TikTok et les efforts de transparence de TikTok, je mettrai ça dans les notes de l'émission. On enchaîne.
Allez.
On parle de Fortnite super rapidement avant les follows. Donc Fortnite, on va faire ça super bref, super rapide. Je trouve ça assez cool. Est-ce que tu joues à Fortnite, Stéphane?
Non, j'ai essayé une fois, mais c'est trop compliqué pour moi.
Ouais. Ma copine est à fond sur Fortnite. C'est assez cool. C'est assez, le fait que le jeu soit populaire, hein, c'est pas sans raison. Le truc, c'est que Fortnite, je sais pas si tu te rappelles, à une certaine époque, je crois que c'est, Reed Hastings, le président de Netflix, qui avait dit que, en gros, leur premier concurrent, la compétition dont il faut qu'ils se méfient le plus, c'est Fortnite.
Non, je savais pas du tout.
Et en gros l'idée de Fortnite c'est de devenir, on va faire rapide, hein, de devenir un centre, un endroit où les gens se retrouvent pendant la quarantaine et en particulier assistent à des concerts. Imagine un peu, tu vois demain, je sais pas, Travis Scott. Alors Travis Scott il avait déjà fait un concert, Marshmello aussi. Mais en gros là l'idée c'était d'avoir je sais pas par exemple Dominique Fick, je sais pas si tu connais Dominique Fick.
Non, je connais pas.
OK, faut que t'écoutes, c'est pas mal. Mais en gros l'idée c'est tu fais Los Angeles, New York, Londres et Fortnite comme date de concert. Donc voilà, Fortnite qui se présente comme presque le multiverse, en gros l'endroit où la vie en dehors de la vie réelle se produit un petit peu comme un nouveau Second Life. Je trouve ça assez intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, si t'as une si t'as une réflexion sur la question.
Ouais, enfin c'est un peu comme Second Life finalement. Enfin, je sais pas trop. En fait, parce que moi j'ai juste joué dans le contexte enfin des batailles, tu vois. Donc j'ai jamais vraiment
Ouais.
utilisé Fortnite dans un contexte de regarder un concert. Donc pourquoi pas. Enfin, je veux dire, c'est samedi, c'est ça?
Comment tu dis?
C'est samedi?
Les concerts, ouais. Alors, je crois qu'il y avait un concert samedi dernier, mais
Ah, c'était passé, ouais.
en gros, l'idée, c'est de, ouais, d'avoir des dates de concerts comme n'importe quelle arène en fait qui accueille des concerts live.
Ok, ouais, bah pourquoi pas. Enfin, je pense que ça peut être intéressant de regarder. Maintenant, en fait, je pense que c'est plutôt quelque chose de transition parce que je pense que quand Facebook aura démocratisé un peu plus leur Oculus et tout ce qui est virtual reality, je pense que là vraiment ce sera l'endroit où les gens se retrouveront pour aller dans des concerts qui sont pas des concerts physiques, tu vois.
Ouais.
Je pense que Fortnite, enfin, je sais pas, mais pour moi Fortnite, tu vois, enfin c'est cool qu'ils fassent ceci, mais je pense pas que ce soit beaucoup plus comment dire avancé que ce qu'on avait déjà sur Second Life il y a 15 ans, tu
OK. Bon, bah écoute, à voir. Moi je suis
vois.
un peu plus optimiste, mais on verra ce que ça va donner.
Mais je regarderai parce qu'apparemment il y a une date le 26 septembre, donc
Ouais. OK. Cool. Bon voilà, c'était en vitesse.
peut-être qu'on se retrouvera là-bas alors.
Ouais, ça marche. On pourra en parler dans un prochain épisode. On passe aux follows.
Ouais, tu veux que je
Super
commence?
rapide. Ouais, vas-y, commence.
Alors moi c'est un petit compte Twitter qui s'appelle Hashflag Gallery. Donc on mettra un lien. Et en gros, je sais pas si vous savez, mais sur Twitter en fait, des compagnies peuvent acheter une animation. Donc quand tu cliques sur l'icône pour mettre un tweet en favori, eh ben il y a une petite animation. Donc généralement c'est un cœur qui arrive avec des petits confettis. Mais les entreprises peuvent acheter une animation et faire en sorte que cette animation soit un peu différente. Et donc Hashflag Gallery, c'est un compte Twitter qui à chaque fois qu'il y en a un nouveau, en fait, qui le référence. Et donc du coup, ça permet de les découvrir et de pouvoir les essayer. Malheureusement, ces petites animations, elles durent pas très longtemps. Généralement, c'est juste une journée. Donc si vous la ratez, ben il n'y a pas vraiment moyen de savoir à quoi elle ressemblait. Mais c'est cool d'avoir un compte Twitter qui permet de suivre un peu ce qui se passe sur Twitter de façon un peu plus light et cool en fait.
J'avais aucune idée que ce truc existait. C'est incroyable. Tu viens de m'apprendre un truc. C'est fou, ça.
La prochaine fois que tu en vois un, tu cliques sur like et tu verras qu'il y aura une petite animation.
D'accord. Bah écoute, c'est assez intéressant. Donc c'est un moyen de monétiser pour Twitter.
Ouais.
D'accord.
Des fois, ils postent des vidéos, donc ça permet aussi d'en savoir un peu plus.
D'accord. Bah écoute, tu viens de m'apprendre un truc, Stéphane.
Ah ben en fait,
Ouais.
il y a aussi un site qui s'appelle hashflaggallery.com et qui fait la même chose, mais là pour le coup, ils référencent les animations, donc tu peux les voir.
Ouais, je suis dessus là. Ok, bon, bah écoute, intéressant. Donc, Hashflag Gallery. Donc moi, je vais parler d'un truc un peu bizarre. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais partagé Liquidation of Excess, qui était un compte Instagram qui présentait un peu les vestiges de l'ex-URSS. Et donc là, j'ai trouvé un peu la même chose, mais en différent, parce qu'on n'est plus simplement en ex-URSS, mais on part en Corée du Nord, et c'est différent parce que c'est plus les vestiges, mais en gros, c'est un peu un, je sais pas comment on pourrait le décrire. En fait, c'est l'équivalent de, je sais pas, Anthony Bourdain, Parts Unknown, mais qui part en Corée du Nord. En gros, c'est ça. Une présentatrice dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, mais qui en gros live blog la vie en Corée du Nord. Alors forcément c'est super encadré un outil. En gros c'est un peu l'outil de propagande de la Corée du Nord sur YouTube, qui vous montre à quel point la vie en Corée du Nord est sympa, les gens sont heureux. Il y a eu donc il y avait un épisode qui parlait d'un typhon qui a touché la péninsule coréenne il y a quelques mois et qui montre un peu la coordination des efforts et les villageois tout heureux de voir arriver les camions du gouvernement pour les aider à déblayer et à s'installer. Il y a un épisode sur ça s'appelle My Favorite Grocery in Pyongyang, donc mon supermarché favori à Pyongyang en gros. Et donc du coup la présentatrice te fait visiter un supermarché, enfin une supérette on va dire, et te présente tous les articles, ses articles préférés. Donc voilà, donc c'est super bizarre en fait quand tu regardes ça. Et puis bah c'est en gros c'est une petite fenêtre sur la Corée du Nord qui est quand même à la fois assez problématique et en même temps fascinant. Ou on va dire fascinant, et le fait que ce soit fascinant c'est un peu problématique, mais bon c'est comme ça. Donc voilà.
Bah c'est cool, bah je regarderai.
Voilà. Et ça s'appelle Echo of Truth, tout un programme. Donc forcément à prendre avec des pincettes, hein, parce que on se doute que c'est clairement pas la vie quotidienne de tous les Nord-Coréens. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin, Stéphane. je te dis à la prochaine. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on va?
Ça marche. Moi, je suis sur Twitter, donc mon pseudonyme, c'est Stéphane.
Ok.
Juste au prénom.
Ça marche.
Et toi?
Et moi, c'est @léthargique.na sur Twitter. Allez, à la prochaine. Ciao.
Ciao.